la minute du CIDFF.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la minute du CIDFF sur 48FM. Et je suis en studio toujours avec Lara et Claire. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Ça va bien la forme aujourd'hui ?
Super, on vient parler d'un sujet hautement positif, alors on est à fond.
Qui ne nous irise pas le poil du tout, enfin les poils.
Et oui, ça parce qu'aujourd'hui, vous venez me le dire juste avant, on va parler fémonationalisme. Qu'est-ce que c'est ce mot ?
Alors déjà, petite question, tu vas commencer à nous connaître, on aime bien commencer nos chroniques par des questions. Thomas, est-ce que tu penses qu'on peut être de droite et féministe ?
Je révise un peu, je m'en souviens, des fois on parle d'intersectionnalité, donc ça me paraît compliqué peut-être, non ?
Ça te paraît compliqué ? Tu penses que ça a du mal à se mélanger ?
J'imagine, si on est sur la libération des individus en tout genre, peut-être que ça peut être un peu compliqué, ouais.
Alors effectivement, et pour autant, depuis quelques temps, on parle d'un mouvement qui se fait de plus en plus entendre et qui justement parle de ça, le fémonationalisme. Alors qu'est-ce que c'est vraiment ? Qui l'utilise ? Dans quel but ? Et comment ça fonctionne ? En fait, le concept de fémonationalisme, il a été forgé par l'enseignante en sociologie Sarah Faris au milieu des années 2010. Elle le désigne comme l'instrumentalisation d'un discours féministe à des fins électorales racistes, islamophobes et ou xénophobes. En gros, c'est l'utilisation des droits des femmes et de leur défense pour justifier des positions anti-immigration ou anti-islam. Donc effectivement, on retrouve la condensation du mot féminisme et nationalisme.
Et c'est là où on constate que le féminisme, ça devient un véritable outil rhétorique pour légitimer le nationalisme. On peut parler, effectivement, d'un féminisme d'extrême droite, voilà. Mais concrètement, même sémantiquement, c'est deux mots qui vont pas ensemble, qui vont pas du tout ensemble. Et les sciences sociales, alors on va pas forcément développer ici, mais elles montrent que c'est des choses qui vont pas du tout ensemble. Au 19e siècle, au 20e siècle, les grandes revendications féministes, mais comme tu le disais, Thomas, la question du droit de vote, du droit au travail, le droit à disposer de son corps, etc., ça a été porté par des mouvements qui étaient proches de la gauche, des mouvements sociaux, et qui remettaient en cause les hiérarchies, les inégalités dans la société. Donc le féminisme, il a vraiment été construit fondamentalement sur des valeurs qu'on peut dire de gauche, d'égalité, de justice. Et ça ne va pas avec ce qu'on va qualifier de féminisme identitaire, de féminisme d'extrême droite. C'est des choses qui ne vont pas ensemble. Donc, on va parler vraiment de rhétorique réactionnaire, avec une catégorie un peu sociologique d'analyse qui retourne le mot du féminisme contre lui-même. Est-ce que tu as une idée de personnalités qui vont utiliser un petit peu ça ?
Des personnalités connues fémonationalisme ?
Ouais, qui se revendiquent. Alors, est-ce que déjà, tu as déjà entendu des gens qui se revendiquent de ces mouvements ? De ce mot-là, je suis fémonationaliste.
On entend beaucoup parler en ce moment, parfois, du groupe Némésis, c'est ça ? Mm-hmm. Par exemple ?
Ouais, alors on reviendra dessus, mais voilà, des personnalités comme Marion Maréchal Le Pen, Marine Le Pen, Thaïs Descuffon, toutes ne se revendiquent pas forcément du féminisme. Marine Le Pen, par contre, elle, dans ses discours, et notamment quand elle a changé l'étiquette et qu'elle est passée Rassemblement National, elle a vraiment porté le discours que le Rassemblement National était le premier parti défenseur de la cause des femmes, par exemple. Voilà. Donc, concrètement, on peut donner des exemples sur des choses et qui vont instrumentaliser tout ça.
Alors oui, on trouvait ça important de parler d'un exemple pour illustrer, parce que c'est pas toujours évident de pouvoir mixer les deux et d'imaginer ce que ça peut donner dans le concret. Mais par exemple, en 2024, il y a eu l'affaire du meurtre de Philippine. Est-ce que ça te parle, Thomas ?
Oui, on en a beaucoup entendu parler. Ouais.
Ouais. Donc Philippine, qui était une jeune femme de 19 ans, qui a été retrouvée morte dans le bois de Boulogne en septembre 2024. Le principal suspect, c'était un homme marocain qui était en situation irrégulière sur le territoire. Ça a fait énormément de bruit. Ça a remis le sujet de la gestion des OQTF, c'est-à-dire obligation de quitter le territoire français, au centre des réflexions publiques. En gros, le discours, c'était « elle est morte parce que c'était un migrant irrégulier, donc les immigrés sont un danger pour les femmes françaises ». En fait, nous, ce qui nous pose problème, c'est que là, on résume la situation de violence à son origine, à cet homme-là, au fait qu'il soit un migrant, en omettant absolument tout le reste. Alors, quand je dis tout le reste, ça peut être multifactoriel, mais notamment, il y a un facteur qui est le fait aussi d'être un homme. Parce qu'effectivement, le point commun de plus de 83% des personnes commettant des violences sexistes et sexuelles, c'est le fait d'être des hommes. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut condamner les hommes, c'est pas la question, mais réfléchir à son origine, mais ne pas réfléchir, et puis prendre bien soin de ne surtout pas parler du fait qu'il y a un problème systémique autour du genre, et bien du coup, c'est pour ça que nous, on parle d'instrumentalisation. Là, cette fois-ci, c'est un homme étranger en situation régulière qui a commis cette violence, mais combien de violences sexistes et sexuelles sont commises par des hommes qui sont bien français, dont on parle beaucoup moins. Pour rappel, un féminicide tous les deux ou trois jours, un viol ou une tentative de viol toutes les 2 minutes 30 en France, et en fait, ça n'est pas systématiquement, loin de là, des personnes migrantes. Donc en fait, nous, ce qui nous dérange, c'est que malgré cette évidence, certains et certaines vont trouver beaucoup plus facile de dire « c'est la faute des migrants, donc on empêche les migrants d'entrer pour protéger les femmes », plutôt que de remettre en question un système patriarcal et misogyne qui est toujours délétère aujourd'hui. Donc c'est sans dire « il faut tout opposer », mais en fait, de ne dire « on ne met l'accent que sur son origine », eh ben, c'est vraiment l'instrumentalisation de dire « c'est parce qu'il est étranger, mais du coup, c'est pour vous protéger, petite femme française, que vous avez besoin du coup du nationalisme ». Donc c'est effectivement une rhétorique qu'on retrouve, par exemple, dans ces mouvements fémonationalistes. Donc Lara a parlé tout à l'heure, et tu l'as cité, parlait de Némésis, par exemple. Il en existe d'autres. Il existe les Antigones, les Cariatides, qui revendiquent leur propre féminisme et qui disent bien qu'elles ont leur féminisme à elles. Et en fait, ce féminisme, elles le font en ciblant principalement l'islam, les migrants, au nom même de la défense des femmes. Mais en fait, des femmes, pas n'importe lesquelles, pas toutes les femmes, pour le coup, surtout les femmes françaises. Et en fait, elles sont de plus en plus présentes dans les médias. Tu disais tout à l'heure, on en entend parler, on les voit de plus en plus. Et la question qui se pose, c'est avec quelle audience, avec succès ou pas succès, et qu'est-ce que ça donne aujourd'hui en termes d'influence ?
Effectivement, là, elles ont été beaucoup sur le devant de la scène, avec la mort de Quentin Derenck, où on en a beaucoup parlé. Peut-être on peut prendre l'exemple d'une jeune femme qui fait partie de ce groupe-là, qui s'appelle Mila Oriol, qui en 2020 a posté une vidéo sur Instagram où qui a eu plus de 35 millions de vues, donc c'est assez énorme, qui insultait l'islam. Et suite à ça, elle a vécu du cyberharcèlement, donc des appels au viol, enfin des choses catastrophique. Et suite à ça, en fait, elle est passée d'ado harcelée à entrer dans un groupe, du coup, d'extrême droite. Et elle est devenue complètement porte-étendard, voilà, de l'extrême droite. Et ça pose aussi beaucoup question de la difficulté pour les assos, parfois, de soutenir et défendre des femmes qui ont été victimes de violences, mais qui tiennent des discours racistes, xénophobes, islamophobes, etc. Peut-être pour faire un petit rappel, parce qu'on parle de ce groupe Némésis, à la base, en fait, c'est un groupe de jeunes femmes qui s'est rencontré sur une page Facebook pour échanger des points de vue sur des histoires qu'elles avaient vécues sur du harcèlement de rue ou des violences sexuelles. Et en fait, ces jeunes femmes, elles font le lien entre ce qu'elles ont vécu et le fait de dire que les auteurs sont toujours les mêmes. Et bien sûr, sont des hommes migrants. Voilà. Donc, concrètement, c'est des choses qui ont été très médiatisées, qui le sont fortement, et ça pose vraiment beaucoup la question de, aujourd'hui, comment on va utiliser tous les canaux possibles et de la visibilité pour convaincre les personnes d'entrer dans des mouvements d'extrême droite.
Donc Lara parle de ce qui se passe aujourd'hui, et aujourd'hui on le connaît un petit peu plus, ce mot de fémonationalisme, mais avant, même si on n'avait pas forcément ce mot-là en tête et si on ne connaissait pas ce nom, il y avait déjà des manifestations du même ordre en France. Par exemple, dans les années 2000, quand on a commencé à avoir énormément de débats autour du voile à l'école, le voile intégral, le séparatisme, etc., où on disait toujours qu'en fait, lutter contre le voile, c'était lutter pour les droits des femmes. Donc en fait, pour protéger les femmes, il fallait supprimer tout simplement le voile, parce que c'est un symbole d'oppression, il faut l'interdire pour les libérer. Mais si je fais ça sans nuancer, si je ne mets aucune nuance et que je dis juste, du coup, il faut supprimer le voile pour libérer toutes les femmes, déjà, je mets beaucoup de choses de côté, j'essentialise complètement, et parfois, du coup, je peux tomber facilement dans une logique fémonationaliste. On part d'une juste cause, l'égalité femmes-hommes. Tout à l'heure, on disait, elles partent aussi, elles, d'expériences personnelles, de vouloir protéger des femmes parce qu'elles ont vécu des choses très violentes, etc. Mais après, on en fait un argument contre une communauté ou une religion ciblée. Et c'est là que ça devient problématique. Et par exemple, quand on dit ça, le côté « les femmes voilées sont toutes des victimes passives », en fait, ces victimes-là, ces victimes supposées-là, elles ont une parole, elles ont des choix, elles ont des combats. Et du coup, le fémonationalisme, c'est aussi le risque de nier à ces femmes-là leur autonomie. Et ça, ça nous gêne.
Oui,
ça,
et puis c'est vraiment comme ça qu'il fonctionne. Le fémonationalisme, c'est... Il va fonctionner principalement sur trois piliers. De considérer tous les hommes issus d'immigration comme des menaces. Qui sont intrinsèquement issus de civilisations sexistes ou violentes, de considérer les femmes musulmanes comme des victimes à sauver, opprimées, incapables de s'émanciper seules. Voilà, Claire en a suffisamment parlé. Mais aussi de considérer la femme occidentale comme un symbole de la modernité. naturellement égalitaire, émancipatrice. C'est comme si, en fait, il y avait des femmes respectables, notamment avec les mouvements MeToo, des femmes blanches, on a le droit de dire tout ça. Et par contre, je sais pas moi, toutes les personnes racisées qui vont travailler sur, ou qui vont avoir diffusé des choses sur Balance ton porc, où c'est, on va dire, elles exagèrent, quand même, maintenant, on n'a plus le droit de se faire opportuner, dans les transports, qu'est-ce que c'est que ce truc, et puis de toute façon, elles veulent juste récupérer de l'argent. Enfin voilà, on a un espèce de double discours là, où on sait plus trop où ça se situe. Et bien sûr, ce fémonationalisme, il ignore complètement la globalité de toutes les luttes féministes, des inégalités persistantes, de la question intersectionnelle. Donc merci Thomas d'être un vrai allié, d'en avoir parlé. Du coup, voilà, quand on parle de féminisme, on est obligé de parler de domination croisée, de genre, de classe, de religion. Les oppressions, elles ne peuvent pas être analysées séparément, ce n'est pas possible.
Alors, pour ceux et celles qui voudraient aller plus loin, parce qu'effectivement, nous, on ne peut pas y passer trop de temps non plus, hein, ça reste la minute du CIDFF, même si on sait qu'on traîne toujours 10 minutes. Lara, t'avais encore des trucs à dire.
Non, je ris. Je ris parce que j'ai...
En fait, t'as fini ça.
Mais ouais, c'est ça.
Pour ceux et celles qui voudraient aller un petit peu plus loin, parce qu'en 5 minutes, on peut pas forcément tout vous dire, il se trouve qu'il y a déjà eu des épisodes sur France Inter, notamment un épisode de Zoom Zoom Zen avec des sociologues super intéressantes. Enfin, il y a plein de choses. Ça va beaucoup plus loin. Nous, c'est vraiment une petite ouverture, une petite prise de conscience. Voilà que ça existe. Si vous voulez aller encore plus loin et que vous aimez lire, vous pouvez lire le livre de Sarah Faris qui s'appelle Au nom des femmes, fémonationalisme, les instrumentalisations racistes du féminisme aux éditions Sileps en 2021. Pour les plus motivés, il y a en avril 2026 un colloque international en ligne sur la thématique féminisme républicain remis en question, perspective intersectionnelle, transnationale et décoloniale sur l'universalisme. Donc ça, c'est en avril 2026 et vous pouvez trouver toutes les infos sur le site fabula.org. Et pardon, c'est un sujet qui nous touche beaucoup. On a un petit peu de mal à aligner trois mots correctement.
Et n'oubliez pas que le féminisme sans intersectionnalité, c'est du développement personnel.
Voilà, on l'a dit plusieurs fois dans ces minutes-là. Et merci de le répéter. Merci beaucoup, Lara et Claire, pour ces explications sur cette minute du CIDFF sur 48FM. Et encore une fois, retrouvez toutes les autres épisodes qui parlent notamment d'intersectionnalité, par exemple, sur notre site 48FM.org. À la prochaine.
À bientôt.
À bientôt.